Dimanche dernier, on a eu un très très bon rassemblement, pas tout à fait dans les formes habituelles. On était 12, donc ça c'était un bon chiffre, hein. Comme commencer l'année avec 12 disciples. Et puis on était là en petit cercle comme ça. On a loué Dieu aussi. Ça nous a conduit dans la louange. Et puis j'ai lu une citation, enfin plusieurs choses, mais entre autres. Une citation de Linda Lemay de son dernier album, je ne fais pas de pub, j'en vends pas, mais elle parle à sa fille qui va partir, qui grandit, qui va partir dans le monde, et elle lui dit ceci à un moment: je ne veux pas que tu maigrisses du cœur en faisant des régimes de peur. Et cette phrase est restée avec moi pendant plusieurs semaines, là, depuis qu'on m'a offert ce CD. Je ne veux pas que tu maigrisses du cœur en faisant des régimes de peur. Et c'est vrai qu'on vit une époque qui est, ben, pour beaucoup de raisons concrètes et réelles, hein, où la peur est là. Et puis déjà, l'être humain a beaucoup de peur aussi en lui. Je réfléchissais comment les peurs, souvent les petites peurs d'ailleurs, hein, lorsqu'elles s'accumulent, ça fait plus mal qu'une grosse peur. Et puis comment elles peuvent produire en nous le découragement. Quand on ne voit plus derrière, quand on a perdu l'espoir, quand les yeux sont sur nos pieds et puis on n'a plus envie de lever la tête parce que de toute façon on n'y voit pas. J'aimerais lier ça avec une citation. Alors, c'est une citation qui est un petit peu peut-être compliquée à écouter. Je vais la lire lentement, mais vous inquiétez pas, je vais le développer, hein. C'est une citation de Simone Veil, pas la ministre, la philosophe toujours, qui est morte depuis longtemps, mais qui m'a beaucoup parlé. Et elle dit ceci: nous sommes attachés par une corde à tous les objets d'attachement, et une corde peut toujours se couper. Nous sommes aussi attachés par une corde au Dieu imaginaire, au Dieu pour qui l'amour est attachement. Mais au Dieu réel, nous ne sommes pas attachés. Et c'est pourquoi il n'y a pas de corde qui puisse être coupée. Il entre en nous. Lui seul peut entrer en nous. Toutes les autres choses restent en dehors. Et nous ne connaissons d'elles que les tensions de degré et de direction imprimées à la corde quand il y a déplacement d'elle ou de nous. Thomas a compris la dernière partie. J'en suis sûr. C'est très, très clair. Non, ce qu'elle dit dans cette citation, c'est que nous sommes liés à tout dans la vie, aux choses matérielles, aux gens, aux situations, à notre emploi. Hein, on est liés à ces choses-là. Ça, c'est pas une question, c'est un fait humainement. Et nos peurs viennent du fait que quand les cordes se tendent ou qu'elles se déplacent, notre lien à ces choses-là, ça nous perturbe. Et puis, bien sûr, il y a toujours la peur suprême qu'une corde casse. La corde qui me liait à ma santé casse et je suis malade. La corde qui me liait à mon travail casse et je suis sans emploi. La corde qui me liait à mon conjoint casse et c'est le divorce, ou etc., etc. Donc on est lié à toutes les choses parce que c'est comme ça sur Terre. Et puis ben, toutes ces tensions entre notre lien aux choses, qu'elles soient des choses matérielles ou des liens humains ou affectifs, sont là et puis tendent de nos vies dans toutes les directions et tout ça crée de la peur. Et puis là-dedans, elle dit, nous sommes liés de la même façon au Dieu imaginaire. Qu'est-ce que c'est ce Dieu imaginaire? Beaucoup d'entre vous ont lu il y a un an, je crois à peu près, ou un peu plus, un petit livre que j'avais conseillé qui s'appelle L'autre Dieu. Hein, c'est une réflexion sur le livre de Job. Le Dieu imaginaire ou l'autre Dieu dans ce livre-là, si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave, vous pouvez comprendre ce matin. Hein. C'est l'image que nous nous faisons de Dieu. Dieu est réel, Dieu existe, Dieu est. Nous, nous essayons de le connaître et forcément, notre compréhension de Dieu, même si elle se base au plus près de ce que nous savons des Écritures, que nous les étudions, que nous cherchons, notre représentation mentale de Dieu, c'est pas forcément, enfin, c'est forcément pas ce que Dieu est réellement, puisqu'on ne peut pas l'englober dans sa totalité, hein. Et donc, c'est ça qu'elle appelle le Dieu imaginaire. Et l'apôtre Jean nous dit ceci, je lis un verset de la Bible, 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le véritable, c'est le Christ. Hein. Et nous sommes dans le véritable, hein, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et j'ai déjà souvent abordé ce sujet. C'est vrai que, pour moi en tout cas, pendant des années, quand on parlait d'idoles, je pensais aux reportages que j'avais vus de missionnaires dans certains pays lointains où des gens, sur un bout de bois, égorgeaient une poule. Ça, c'était une idole. Mais pour moi, il n'y avait pas d'idole autour de moi. Oui, l'argent est une idole, je savais ça. Hein. Mais je n'avais pas réalisé que l'idole la plus dangereuse, c'est ma fausse représentation de Dieu. Et malheureusement, quantité de croyants sincères, honnêtes, vivent avec des idoles, ben moi aussi, hein, mais voilà. Mais c'est plus ou moins grave, simplement parce qu'on a une fausse idée de qui est Dieu. Et là, le vrai Dieu, alors Jean nous dit, nous sommes dans le véritable. Rappelez-vous que je ne peux pas connaître toute la vérité, mais je peux lui appartenir. C'est différent. Chaque fois d'ailleurs que les chrétiens ont pensé qu'ils avaient la vérité, c'est devenu dangereux. Nous avons la vérité. Ouf, danger. Ça a toujours amené à persécuter ceux qui n'avaient pas la vérité, à les mépriser, à les regarder de haut. Et puis, ce n'est pas ça. Par contre, nous pouvons être dans la vérité. Pourquoi ? Parce que Dieu, le vrai Dieu, qu'on ne peut pas saisir dans son ensemble, a choisi de venir vivre en nous. Ça, c'est assez extraordinaire. Ce n'est pas compréhensible non plus avec notre intelligence. Hein. Mais c'est clairement expliqué dans les Écritures. Hein. Christ en nous, l'apôtre Paul dit, il vit en nous. Alors je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais il est là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, il n'y a pas de corde qui peut être coupée. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit « l'amour parfait chasse la crainte ». Mais parfait, ce n'est pas dans le sens où on aime parfaitement. Hein. L'amour, plus meilleure traduction d'ailleurs, qui a atteint sa maturité, hein, chasse la crainte. Lorsque je comprends que je ne suis pas lié à Dieu par une corde, et j'ai plus peur que la corde se casse. Et ça peut amener de la sérénité dans ma vie. Et c'est important parce que on va du coup laisser les choses qui nous secouent nous secouer pour détruire nos fausses images de Dieu. Si on prend l'exemple des deux fils dans la parabole que Jésus raconte, le fils qui a demandé son héritage, enfin sa part d'héritage et qui est parti, avant qu'il parte, il avait une fausse image de son père. Et puis, il était lié à son père par quoi ? Par l'héritage. Mon père, ça représente tant et j'aurai tant quand il est là, et puis en fait, je le veux maintenant. Donc, il a pris cette part d'héritage. Il est parti, il a dilapidé ça, il a rompu ce lien. Il est passé par une expérience difficile où il a été déçu de lui-même, découragé tout en bas, au plus profond, avec les cochons, au propre et au figuré. Et puis là, il s'est dit, il y a cette belle phrase, « revenu en lui-même ». Puis là, j'aime bien la vieille traduction parce que je la trouve très forte. « Revenu en lui-même ». Il se dit, « chez mon père, c'est comme ça, comme ça ». Et puis, il a une nouvelle ambition dans sa vie. Habiter dans la maison de son père. C'est plus avoir l'héritage, c'est vivre avec. Et il retourne. Et vous connaissez l'histoire, il retourne son père. Il retourne en pensant, ouais, je vivrai dans l'étable, ça sera mieux que dehors, je serai l'esclave, mais au moins j'aurai à manger. Mais je vivrai. Son père l'accueille et puis le réintroduit dans tous ses droits de fils, lui redonne sa carte de crédit, hein, l'anneau, c'était ça, c'est avec ça qu'on payait. Et là, il y a le deuxième fils. C'est d'ailleurs pour parler de lui que l'histoire a été racontée par Jésus, hein, puisqu'il parlait à des gens qui pensaient justement connaître Dieu et savoir. Et là, le deuxième fils, il rentre et puis il pique sa grosse colère. Parce que moi, j'ai toujours tout fait bien comme il faut. Et tu ne m'as jamais donné quelque chose en retour. Hein. Il ne veut même pas rentrer dans la maison. Si lui y est, si on fait la fête pour lui, ben moi, je reste dehors. Hein. Et on voit qu'en fait, cette situation, révèle une chose, c'est que ce deuxième fils ne connaissait ni son père, ni la maison, ni... Il était lié par des tas de choses qui ne sont pas bonnes. Il était lié par le devoir, l'approbation, l'envie, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, il a fallu que pour l'autre fils, tout perdre, après apparemment une mauvaise décision, pour redécouvrir qu'il y avait un autre rapport qui n'était pas une corde qui peut se rompre, mais qui était « on va vivre ensemble, mon père et moi ». Et les difficultés de la vie qui pourraient nous amener au découragement, ce qui pourrait être une source de peur, parce que tout d'un coup, les cordes se tendent, et puis quand les cordes se tendent, en plus, dans deux directions opposées, vous savez ce que ça fait, on est écartelé entre les deux. On peut pas. Mais l'amour de Dieu qui, lui, vit en nous, va pouvoir chasser cela. Et on va passer nos vies, en fait, à évacuer des éléments du Dieu imaginaire, de ces idoles qui sont en nous, pour laisser plus de place au vrai Dieu, qu'on ne pourra jamais saisir complètement, mais qui est celui qui est. Et c'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est amusant. C'est un peu ironique. Mais la pensée qu'il y a dans beaucoup de religions orientales, donc non chrétiennes, qu'il faut chercher Dieu en nous, elle est vraie. Sauf qu'il faut le chercher que s'il y est, parce que s'il n'y est pas, ça ne sert à rien de le chercher. Et puis il y est par Christ, parce qu'on l'a reçu. Je ne suis pas en train de dire qu'on trouve Dieu en nous comme ça, tout simplement. Mais par contre, beaucoup de chrétiens évangéliques qui croient être de bons chrétiens vivent tout simplement avec des idoles en eux. Si je crois que Dieu m'aime parce que j'ai bien fait, j'adore une idole. Dieu n'est pas comme ça. Si je pense que Dieu est en colère contre moi parce que j'ai mal agi, en tant qu'enfant de Dieu, j'adore une idole, parce que Dieu n'est pas comme ça. Si je pense que je dois souffrir pour que Dieu soit content, j'adore une idole, parce que Dieu n'est pas comme ça. Donc toutes mes fausses conceptions de Dieu sont des idoles. Et puis en cherchant à me lier par des cordes à mon devoir pour Dieu, pour l'Église, pour les gens, pour le monde, pour si et ça, d'abord, je ne fais pas plaisir à Dieu, j'adore pas Dieu parce que ce n'est pas lui. Et deuxièmement, je me prépare des tensions insupportables. Parce que quand les cordes vont se tendre, ou quand elles vont craquer, ça va être terrible. Je vais être dans la peur complète. Alors qu'au contraire, notre but sur Terre, et là peut-être pour les jeunes, c'est un peu abstrait. Moi, je commence à être à l'âge où ça va de l'autre côté. Et le but, c'est au contraire de lâcher de plus en plus de choses pour être le plus léger possible, pour terminer la fin du voyage, et pouf, partir pas chargé. Je suis passé chercher des câbles et un chargeur de batterie chez Philippe pour démarrer la voiture de mon frère qui était coincé par le gel. Et puis, on a passé plus d'une heure à discuter et on parlait là-dessus. Virginia en parlait par rapport à son travail, moi je parlais par rapport à mes parents, et au fait de lâcher les choses avant que la vie nous les prenne. Et dans ce qu'on voit ce matin, c'est laisser partir les cordes avant qu'elles cassent peut-être et que le choc soit violent. Alors pour quand on est jeune, ça n'a pas trop de sens parce qu'on est dans la période où, au contraire, on achète des cordes et on les attache de partout. Puis c'est normal, il y a un temps pour ça, il faut le faire. Mais savoir aussi qu'un jour, ces cordes qu'on a achetées, attachées, fixées, mises pour que tout soit solide, ben peut-être pas trop tard d'ailleurs, il faudra commencer à défaire un peu les nœuds, les rendre plus lâches, les laisser un peu glisser. Puis ça, en fait, ça ne me sert plus trop. Puis ça, ça ne me sert plus trop. Vous vous rappelez, j'avais une fois montré toute une série d'images avec le lancement d'une fusée. Alors j'avais pris les fusées Ariane parce que c'est les meilleures, c'est celles qui partent toujours. Il y a eu encore un dernier lancé en 2016 et c'était le, je ne sais plus combien, genre 60e sans échec. Donc voilà, un peu de publicité pour l'Europe. Et puis, vous voyez cette fusée qui est énorme. Et puis en fait, qu'est-ce qui va partir dans l'espace? Une toute petite capsule à la fin. Énormément d'énergie pour décoller du sol. Ça, c'est la jeunesse. Et puis petit à petit, pouf, il y a un étage qui tombe, un étage qui tombe, un étage qui tombe, un étage qui tombe. Et à la fin, il reste l'essentiel. Mais en comparaison, c'est je ne sais pas combien, un centième du poids. Enfin, et puis en plus, il n'y a plus besoin de moteur. C'est juste la traction, hein, qui fait que ça continue. Et c'est pareil dans nos vies. Au début, il faut beaucoup d'énergie pour bouger beaucoup de choses, pour peut-être pas grand-chose, mais il faut le faire. Mais sur la fin du parcours, c'est l'attraction qui nous tire. Paul dit, si vous avez été saisi par Jésus-Christ, parce que moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et puis, il y a de moins en moins d'efforts à faire, entre guillemets, parce qu'on est attiré par... Il est en nous, et puis hop, ça nous tire. L'Épître aux Hébreux dit, nous avons saisi l'espérance comme une ancre. Donc une ancre, elle est au bout d'une corde. Hein. Et l'espérance, c'est ce que nous n'avons pas encore. Alors on pourrait dire, ouais, c'est une corde. Mais nous avons Dieu en nous. L'espérance, nous la saisissons en espérant que. Mais l'amour de Dieu qui est présent, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été passé, donné, ça, c'est pour aujourd'hui. Et on va vivre avec ça et avancer avec ça. Et on va réaliser ce verset de Jean 8, 36. Si le Fils vous donne la liberté, vous serez vraiment libre. Alors, je ne sais pas, il y aura probablement dans toutes nos vies en 2017 des bouleversements, des bons, des moins bons, des mauvais, des très bons. Je ne suis pas prophète pour vous dire le futur. Mais utilisons ces choses-là pour peut-être laisser glisser quelque chose qui ne nous serve pas. Et puis être un peu plus léger pour continuer. Et je voudrais encore lire ces quelques versets d'Hébreu. Il est dit, Hébreu 12, 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ça parle de la fin des temps. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Moi, comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec amour. Que les choses ébranlables soient ébranlées pour que les inébranlables restent. Pour qu'on secoue le cocotier qui ne reste plus que ce qui est important. Perd quelques feuilles, perd quelques noix de coco, mais il va rester ce qui doit rester. Et puis, c'est ce qui se passe avec Dieu. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ce petit message que j'ai envoyé, parce que j'ai envoyé aussi hors de l'église, sur vivre dans le luxe de sa présence. Puis j'ai eu plusieurs réactions du genre, oui, mais tu places la barre haut quand même, hein, ça va être difficile. Puis là, j'ai dit, aïe, ça a été mal compris. C'est pas un truc de plus à faire, parce que alors sinon, on est reparti à la case départ. Quoi. Mais juste d'avoir ce désir, parce qu'on ne peut pas faire plus, ou en tout cas de consentir à ce que lui le fasse. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à chercher la présence de Dieu à droite, à gauche, à faire plus, à faire moins. Il est en nous. Donc vivons avec lui dans cette conscience, et puis des fois... On ne le sent pas, mais il est quand même là. Et puis, des fois, on le sent et ça fait plaisir, heureusement. Mais ça ne change pas le fait qu'il n'y a pas de corde. Donc, elle ne peut pas être coupée. Et on n'a pas à avoir peur de ça parce que, vous connaissez la fin de Romains 8, hein, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et là, Paul, il fait une liste. Hein, ni la mort, ni la vie, ni la domination, les autorités, les puissances, choses d'en haut, celles d'en bas. Puis, on pourrait en rajouter d'autres. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors on va essayer de ne pas vivre avec des régimes de peur, pas se laisser décourager, ça arrive, hein, ce n'est pas un péché, mais juste quand on est découragé, pensons que peut-être on est secoué pour que des idoles éjectent de nos vies, pour que des choses qui ne sont pas vraiment utiles disparaissent, et ça fait plus de place pour que sa présence se manifeste. Seigneur, on te remercie parce que... Nous ne sommes pas liés à toi par notre engagement, par des résolutions, par tout ce que nous pouvons faire, dire ou penser. Mais nous sommes liés à toi parce que ta vie est en nous, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as toujours aimés, parce que tu nous aimeras toujours. Et nous avons juste accepté que tu le fasses. Que nous puissions vivre le reste de cette journée, de cette semaine, de cette année, dans cet état d'esprit. Et nous savons que ce n'est pas naturel pour nous, mais nous te demandons que jour après jour, et les uns par les autres aussi en nous encourageant, nous puissions vivre dans cette tranquillité qui vient de la conscience de ta présence, Seigneur, de ton amour inconditionnel, de tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu veux partager dans l'intimité de notre vie. Merci pour cela et merci pour mes frères et sœurs qui me font du bien, qui m'encouragent et qui me permettent de te voir, de t'entendre, de te trouver quand c'est devenu difficile pour moi, Seigneur. Merci. Amen.